VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé aujourd'hui son vice-président. Il a choisi Daniel Cablan Duncan, anciennement premier ministre. Le chef de l'État ivoirien a annoncé son choix dans une adresse solennelle à l'Assemblée nationale. On écoute Alassane Ouattara.
Monsieur Daniel Cablan Duncan est un brillant économiste qui a occupé successivement de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, et en tant que ministre d'État et premier ministre dans plusieurs gouvernements dans notre pays. Grâce à son action à la tête du gouvernement sortant et aux réformes qu'il a entreprises, notre pays a enregistré des résultats exceptionnels dans tous les secteurs et reconnu aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Dès mon retour au palais présidentiel, je vais signer le décret nommant Daniel Cablan Duncan vice-président de la République de Côte d'Ivoire.
Le président ivoirien Alassane Ouattara. Crise en Gambie, les États d'Afrique de l'Ouest qui continuent d'exhorter le président sortant gambien Yahya Jammeh à céder le pouvoir au vainqueur de la présidentielle de décembre annoncent l'envoi d'une nouvelle mission à Banjul, où Jammeh a limogé son ministre de la Communication ainsi que 12 ambassadeurs de Gambie à l'étranger, notamment à Washington, qui avaient félicité le président élu Adama Barrow. La CDAO enverra demain en Gambie plusieurs émissaires, à savoir le président nigérian Muhammadu Buhari, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CDAO, et l'ex-chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama, déjà parti à Banjul le 13 décembre. Par ailleurs, c'est en principe aujourd'hui que la Cour suprême doit statuer sur le recours introduit par Yahya Jammeh, qui conteste sa défaite à la présidentielle. Les juges étrangers qu'il a nommés le mois dernier pour siéger à la Cour ne sont toujours pas à Banjul. Abdourahmane Dia.
À Banjul, c'est toujours l'incertitude sur cette audience de la Cour suprême. Plusieurs médias nigérians ont rapporté que les juges nigérians nommés par Yahya Jammeh ont refusé de se rendre dans la capitale gambienne. Il n'est pas clair si la Cour va siéger ce mardi alors que la CEDEAO, qui s'est réunie hier en mini-sommet à Abuja, a promis de poursuivre sa médiation dans le respect de la constitution gambienne. Une délégation de l'organisation sous-régionale doit d'ailleurs se rendre demain à Banjul pour tenter de ramener Yahya Jammeh à la raison. La CDAO a une nouvelle fois réitéré sa préférence pour une solution négociée, mais dit n'exclure aucune option. Le chef de l'État gambien a sévèrement critiqué la CDAO dans son discours de fin d'année, l'accusant de parti pris. Donc il est peu probable que les chefs d'État qui se rendront demain dans la capitale gambienne lui fassent changer d'avis. Il continue de rejeter les résultats, appelant à l'organisation de nouvelles élections. De son côté, le président élu Adama Barrow continue de clamer qu'il prêtera serment comme prévu le 19 janvier prochain.
Au Nigeria, les travailleurs du secteur pétrolier et gazier ont arrêté le travail ce mardi dans le sud du pays pour protester contre le non-paiement de leurs salaires et autres émoluments, menaçant de paralyser la production et la fourniture d'électricité. Au moins 12 stations de débit, de compression et de pompage exploitées par la NDPC, la Nigerian Petroleum Development Company, dans l'état du Delta, sont concernées par cette action collective, ont indiqué des représentants des travailleurs dans un communiqué. Selon les experts, si le mouvement se poursuit, il pourrait entraîner la fermeture des installations, ce qui affecterait davantage une production pétrolière et gazière déjà affaiblie par une série d'attaques rebelles contre les sites de production en 2016. Un tel scénario, selon ses experts, pourrait avoir pour conséquence de bloquer l'approvisionnement de l'usine de gaz naturel d'Outorogou, l'une des plus importantes du pays, avec un effet d'entraînement sur la fourniture d'électricité à l'échelle nationale. L'un des leaders des contestataires, Pascal Omonena, a affirmé à l'AFP qu'il n'y aurait pas de reprise du travail tant que les revendications des travailleurs ne seront pas satisfaites. Pas de réaction pour le moment de la part de la NDPC, qui est une filiale de la Compagnie nationale pétrolière nigériane.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a nommé un nouveau ministre du pétrole et des hydrocarbures, Pascal Wani Ambouroué, qui remplace Étienne Dieudonné Ngoubou sur fond de chute des recettes du secteur, principale source de devises du pays. Dans un décret rendu public lundi en fin de soirée, le président Bongo a également nommé un ministre délégué auprès du ministre du Budget, à savoir Anissé Mbounou Mikayou. Le décret ne précise pas les raisons de ce mini-remaniement ministériel, mais comme les autres pays producteurs de pétrole, le Gabon subit de plein fouet la chute des cours du brut, qui a entraîné une baisse des ressources de l'État et de nombreux licenciements dans le secteur. RDC, un groupe d'experts de l'ONU, demande à Kinshasa et au gouvernement congolais d'ouvrir une enquête sur une affaire de trafic d'or. Les détails avec Anastasie Toudjiech.
Le rapport rendu public hier indique que l'or reste de loin le minéral le plus utilisé pour financer des armes et des réseaux criminels en RDC. Le métal précieux est principalement sorti du pays en contrebande vers Dubaï ou les Émirats arabes unis, avec la complicité de plusieurs officiers militaires en violation des règlements de l'armée et du code minier congolais. En septembre, l'armée congolaise a ouvert des enquêtes contre 3 généraux et 2 colonels pour leur implication présumée dans des mines du Sud Kivu. Mais 2 mois plus tard, l'affaire était classée sans suite. Les experts de l'ONU qui craignent un cycle d'impunité ont appelé Kinshasa à enquêter aussi sur l'entreprise Kimia Mining, détenue par des ressortissants chinois. Des militaires ont en effet été déployés pour protéger les activités de dragage de la rivière Ituri par cette société, alors que le gouverneur de la région avait suspendu toutes les opérations en juillet dernier en raison d'inquiétudes pour l'environnement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour en Afrique de l'Ouest. Le Bénin célèbre aujourd'hui, comme tous les 10 janvier, la fête des religions indogènes, encore appelée la fête du vaudou. Approuvée dans les années 1990 par Nicéphore Soglo, alors président du Bénin, elle vise à donner toute sa valeur à ce patrimoine ancestral, selon notre correspondante sur place. Mais certains chrétiens du pays ne cachent pas leur opposition, comme on l'a vu dimanche lors des affrontements qui ont fait 2 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants dans la cité historique d'Abomey. De Cotonou, le reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Déjà bien de décennies qu'on dit du Bénin qu'il est le berceau du vaudou et cette fête annuelle qui permet aux gardiens de la tradition de promouvoir et de valoriser le culte vaudou sonnait comme une reconnaissance concédée à une religion ancienne mais longtemps restée sous l'ombre des religions dites nouvelles. Pour ces quelques chrétiens rencontrés, les avis restent partagés sur le bien fondé du culte vaudou.
C'est aussi une fête qu'il faut célébrer puisque le vaudou existait avant les autres religions. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours en communion avec les manes de nos ancêtres.
Cela sont des esprits infernaux qui viennent troubler la population, qui viennent gâcher leurs projets.
Ce n'est rien comparé au diatribe de ce pasteur John Migan qui a adressé une lettre à la Cour constitutionnelle demandant la suppression de la fête des religions endogènes qui, selon lui, décrédibilise le Bénin aux yeux du monde entier. David Kofi Aza est un prêtre du Fa, encore appelé la géomancie. Pour lui, c'est un manque de culture que de dire que le vaudou est un nid de nuisance.
Aucun vaudou ne peut faire le bien et le mal sans la participation et l'action effective de l'homme. Les vaudous, c'est des énergies neutres, donc ils ne répondent pas à notre place. C'est l'homme qui fait du vaudou le bien ou le mal.
Malgré les nombreuses sensibilisations et les appels au respect de la laïcité reconnus par les textes fondamentaux, le vaudou, pour beaucoup de chrétiens, reste un culte satanique. Ricardo Kisui est un doctorant en religion à l'Université nationale du Bénin.
Selon la Bible, eh bien, tout ce qui est idolâtre automatiquement satanique. Les vaudous, ils nous diront qu'ils ne sont pas idolâtres. Mais je dis, mais s'ils sont idolâtres, quel que soit, même si la mode de terre qui représente la sculpture, même si ce n'est pas véritablement l'esprit même qui est matérialisé, mais c'est un lieu de rendez-vous. En tant que tel, donc, ils adorent des esprits. Alors que les chrétiens n'adorent pas des esprits. Le chrétien adore l'esprit. Or, nous savons qu'il y a des esprits positifs et des esprits négatifs. Alors, les esprits positifs ne vont pas dans les arbres, ils ne sont pas dans les bois, ils ne sont pas dans les modes de terre, ils ne sont pas dans les rivières. Donc, ce sont le nid des esprits négatifs. Et en tant que tel, eh bien, ces esprits travaillent pour Satan. Donc, Le Vaudou est une région satanique.
En 10 ans de gestion du pouvoir d'État, l'ancien président de la République ne s'est jamais pointé à une manifestation officielle de la fête des religions endogènes, au grand mécontentement des gardiens de la tradition qui pensent que Yahi Boni avait un fort penchant pour le christianisme. C'est un test pour Patrice Talon qui, selon les bruits de couloir, pourrait aussi briller par son absence. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adanly pour VOA Afrique.